Frédéric Jamet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion chez State Street France. On va parler avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Si on s'arrête ensemble quelques minutes sur l'année 2014, ça a été une année particulière. On peut dire que les banques centrales sont toujours là, bien sûr, à faire le marché, mais pour l'investisseur.
Alors les banques centrales sont absolument présentes, puisque finalement c'est elles qui ont été un moteur assez essentiel. Je dirais des centres de discussion et de l'évolution des marchés, que ce soit aux États-Unis avec toute l'idée de la remontée des taux américains, ou que ce soit le support apporté sur les marchés européens par la BCE. Globalement, je dirais qu'on s'attendait peut-être à une meilleure année sur la zone euro d'un point de vue boursier. Donc de ce point de vue-là, on a été un petit peu déçus. Maintenant, si on prend le MSCI World, donc l'ensemble des actions au niveau mondial, exprimées en euros, donc on va inclure finalement la hausse du dollar, on a une hausse qui est proche des 20%, ce qui est quand même assez considérable. Et paradoxalement, la baisse des taux a entraîné également une rentabilité des marchés obligataires de l'ordre d'une dizaine de pourcents, qui est absolument considérable de la même façon.
Oui, on a pu le dire à plusieurs reprises que c'était l'une des surprises de cette année 2014. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, effectivement, les marchés obligataires qui étaient mis de côté, bah, c'était finalement là où on pouvait aller faire de la performance.
C'est vrai, mais on commence à approcher maintenant des taux qui sont vraiment proches des plus bas au niveau nominal, donc on va dire de l'ordre de 1%. Alors le Japon, ils sont à 1,5%, donc il est encore possible de gratter un petit peu, mais je pense que les perspectives prochaines d'un rendement de 5 à 10% tous les ans avec des marchés obligataires sont quand même bien révolues.
Donc là, ce qui n'a pas été celui qui n'aurait pas pu le faire, qui n'aurait pas pu faire cette performance-là, c'est pas la peine qu'il y aille maintenant.
Ah oui, je crois que c'est un petit peu fini.
Alors en Europe, ce qui a le plus peut-être changé, c'est le scénario macroéconomique, c'était cet accident allemand à un moment donné qui a
Alors,
fait craindre une année 2015.
peut-être sur l'Europe et la perspective 2015, finalement, vous avez deux choses. Vous avez les éléments négatifs, c'est-à-dire des perspectives de croissance extrêmement modérées, de l'ordre de 1% ou moins. D'un côté, un chômage élevé, pas d'inflation, enfin vraiment des perspectives de stagflation. Et puis on a un certain nombre néanmoins de bonnes nouvelles structurelles. Alors les exemples de bonnes nouvelles, c'est le support extraordinaire de la BCE. Donc on est à des taux de placement négatifs, des taux d'emprunt négatifs et de placement négatifs offerts par la BCE. Donc quelque chose de tout à fait matériel comme support, un programme de titrisation, une revue qui a été faite sur les actifs bancaires qui montre hein, le stress test qui montre que finalement on a des banques européennes qui sont solides. Et puis tout ceci a généré un mouvement de baisse de l'euro qui finalement va aider les entreprises exportatrices. Et donc on a plutôt des bonnes raisons, je dirais, d'être positif pour l'année 2015, mais avec une certaine sélectivité, une certaine prudence. Donc typiquement, l'idée ce sera de se concentrer sur des pays qui ont par exemple mis en œuvre des réformes, des choses comme l'Espagne, peut-être l'Italie. Les réformes en France sont encore, ou du moins les réformes réussies, les réformes substantielles sont peut-être encore à attendre.
Alors, si on regarde du côté des États-Unis, c'est vrai qu'on voit des chiffres qui restent plutôt positifs. Il y avait eu à un moment donné quelques inquiétudes sur est-ce que finalement cette croissance américaine était bien au rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ce fait-là, sur le fait que la croissance américaine est là et sera au rendez-vous.
Alors, la croissance américaine semble bien être là, hein, elle est établie dans un solide 3%, voire un petit peu plus. Il y a des éléments assez concrets, hein, là aussi. Il y a la Fed qui vient supporter cette croissance, il y a des choses du côté de l'énergie avec le gaz de schiste. Les entreprises américaines très orientées sur la technologie se portent bien. Donc, je dirais d'un point de vue économie, on a une vision assez positive, mais ça a été mis en œuvre et translaté par les marchés de façon assez extraordinaire. Donc on a maintenant des actions américaines qui ont des bonnes perspectives, mais qui sont très chères, qui sont chères ou très chères. Donc je dirais par rapport à des marchés obligataires, ça reste quand même plutôt intéressant, je dirais à moyen terme. Maintenant, par rapport aux autres régions, vous êtes quand même amené à une certaine prudence. Donc l'idée, c'est plutôt d'être investi sur les actions américaines à travers des stratégies de type défensive, minimum volatilité, des stratégies plutôt prudentes.
Alors, on a aussi beaucoup parlé des pays émergents. Et là, on pourrait dire qu'on avait eu quand même pas mal de surprises sur ces marchés-là. Alors, au-delà de la croissance chinoise un peu plus faible, mais par exemple, quand on avait un pays comme le Brésil en récession, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on parlait des BRICS, on n'imaginait pas que le Brésil puisse tomber comme ça, par exemple.
Alors, je crois que les BRICS, l'idée des BRICS, c'est les marchés émergents constituent un tout homogène. Bon, c'est une idée qui est maintenant complètement révolue. Vous avez en fait plusieurs types, plusieurs groupes de marchés émergents. Des marchés émergents où c'est la catastrophe, qui n'ont pas réussi à se réformer, qui s'enfoncent dans les difficultés. Des marchés émergents qui sont attachés, d'autres marchés émergents qui sont attachés aux matières premières, par exemple la Russie, très attachée au pétrole. Et puis vous avez des marchés émergents qui s'orientent vers, je dirais, une croissance articulée sur de meilleures infrastructures, la mise en place de réformes, donc des choses assez positives. Donc finalement, la vision des marchés émergents doit se voir à travers la mise en place de réformes, c'est-à-dire est-ce que le pays dans lequel on veut investir est un pays qui a un horizon et une perspective de réforme tout à fait significative. Alors vous avez trois pays qui sont peut-être assez intéressants de ce point de vue-là. Bon, il y a la Chine qui est en train de mettre en place ou d'essayer de mettre en place un système par lequel ils vont basculer d'un modèle d'exportation à un modèle de consommation intérieure avec un problème de gouvernance, d'infrastructure, etc. Donc ça c'est un premier thème. Un deuxième thème intéressant, c'est les infrastructures avec l'Inde. Donc l'Inde est un pays qui a très bien marché depuis le début de l'année avec l'idée justement de mettre en place des réformes structurelles, des réformes d'infrastructures, des réformes financières. Et puis un autre exemple, c'est par exemple le Mexique avec les réformes à mettre en place sur le marché de l'énergie. Donc les marchés émergents doivent être associés à cette notion de réforme.
Alors, on a parlé de matières premières, on a parlé aussi de devises. Quels sont les facteurs finalement aujourd'hui qui vont, ou pour les prochains mois, que vous allez regarder de plus près? Parce que les matières premières, on voit où on est tombé pour le pétrole, avec justement ce qui se passe en production de schiste aux États-Unis. On a vu l'évolution euro-dollar. Quelles sont un petit peu les perspectives d'investissement de 2015?
Alors les perspectives en termes de devises, l'idée intéressante en fait c'est d'associer les devises au marché obligataire, aux courbes de taux. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On voit sur les courbes de taux européennes ou japonaises finalement un taux court terme qui est presque à zéro et un taux long terme qui est en train de baisser, donc un aplatissement de la courbe des taux. Sur le marché américain, c'est la même chose, mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez là finalement une prévision de hausse des taux courts. Donc on va se retrouver avec des courbes de taux relativement plates, mais simplement des courbes de taux plus hautes pour les États-Unis que pour l'Europe et pour le Japon. Et donc ça laisse à penser qu'on va avoir un mouvement, je dirais, d'investissement vers les actifs libellés en dollars et une hausse du dollar bon, qui est bien entamée. Hein. On est environ à 1,25 dollars pour euro, mais on envisage un point d'équilibre à 1,20 et il est bien possible qu'on dépasse un petit peu ce point d'équilibre.
L'investisseur, il est obligé aujourd'hui d'aller sur les marchés actions s'il veut du rendement, en attendant que ça change, mais aujourd'hui, il est obligé d'y aller.
Alors, il y a trois éléments. Bon, aller sur les marchés actions, parce que quelque part, c'est quand même là qu'il y a des perspectives de croissance et de valorisation. Les marchés obligataires restent intéressants, mais il faut les attaquer par un certain angle, c'est-à-dire voir des choses comme le high yield ou les obligations corporate. Et puis il y a un troisième élément, c'est comment vous mixez les deux. Et donc là, on est dans des problématiques d'allocation d'actifs. Et la problématique d'allocation d'actifs est assez intéressante puisque c'est quelque chose qui peut intégrer le risque. Et donc le risque reste quand même une grosse préoccupation. Donc on va parler d'allocation d'actifs flexibles, par exemple, c'est-à-dire des choses qui peuvent être relativement dynamiques en fonction de la volatilité des événements de marché. On utilise à State Street un indicateur qui s'appelle l'indicateur de régime de marché qui vous donne finalement une mesure de l'aversion au risque des marchés. Aujourd'hui, c'est un indicateur qui a un niveau relativement élevé, donc on est dans une perspective d'aversion au risque, je dirais à court terme, qui est relativement élevé. Donc on est plutôt sur une notion d'actif défensif ou d'actif relativement d'équilibre en termes de portefeuille.
Merci Frédéric Jamet d'avoir fait le point avec nous.
Merci bien.